Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, actualité économique du jour. La SNCF est dans le vert pour la troisième année de suite, 1,3 milliard d'euros de profit. Cette entreprise était une entreprise normale. On a souvent posé la question, trois années quand même dans le vert. Bon, je vais la poser pour ouvrir cette émission. Vous avez vu que dès qu'il y a une colère, dès qu'il y a une résistance, dès qu'il y a une inquiétude, eh bien généralement les pouvoirs politiques reculent sur des contraintes, sur des agendas liés à la transition énergétique. Peut-on dire que nous en sommes au début d'une contre-révolution verte quand on met bout à bout l'ensemble des éléments sur lesquels il a fallu amender, reculer, faire un moratoire? Et notamment, on l'a vu à l'occasion de la colère agricole. On dira un mot du rabot. Alors après le rabot sur les dépenses d'État, le rabot sur les dépenses sociales, pas beaucoup de détails, mais en tout cas il est bel et bien là. La baisse des prix de l'énergie et la baisse de la demande notamment, surtout en termes de gaz, est-elle durable? Sommes-nous sur un monde qui change, où la transition notamment énergétique fait que la demande de produits fossiles est bel et bien aujourd'hui en décroissance? Est-ce que l'on vit un contre-choc énergétique? On posera la question. Et puis, bonne ou mauvaise nouvelle, quand le Qatar investit 10 milliards d'euros en France d'ici à 2030, le Qatar d'ailleurs ou un autre, hein, c'est pas vraiment le Qatar, mais quand un étranger décide d'investir chez nous, est-ce qu'il faut s'en féliciter? Est-ce qu'il faut le regretter au motif que nous avons une position extérieure nette très négative et qu'au fil des investissements, nous sommes de plus en plus une nation détenue par l'étranger? Bonjour Patrice Geoffron.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur à Paris Dauphine, membre du Cercle des économistes. Xavier Timbaud, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur principal de l'OFCE et Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Des résultats divisés par deux comparés à 2022, mais en 2022, il y avait eu des cessions exceptionnelles, des cessions d'actifs de l'immobilier pour 800 millions d'euros. Et puis il a fallu provisionner en 2023 les hausses de salaire qui dépassent l'inflation quand on la prend sur plusieurs années à la SNCF. Dire qu'un agent SNCF, un cheminot, est maltraité au niveau de sa rémunération, ce serait aller un peu vite. Il y a eu des performances un peu moins bonnes pour Géodis dans la logistique. Et puis, il faut payer les grèves. En 2023, la facture des grèves, c'est 350 millions d'euros. Mais l'entreprise est malgré tout dans le vert depuis la troisième année consécutive. Vous diriez que c'est une boîte normale, Laurent Vronsky? Elle n'est pas la seule, 100% détenue par l'État. On ne peut pas considérer qu'être 100% détenu par l'État est une espèce d'anomalie structurelle qui fait que l'entreprise n'est pas comme les autres. Mais la SNCF est-elle une entreprise normale, à votre avis?
Alors, je pense que ce qui est important, ce n'est pas que l'entreprise soit à 100% détenue par l'État, c'est l'interférence de l'État. Parce que je rappelle que les entreprises sont soumises à la loi du marché.
Oui.
Ce qui n'est pas exactement le cas de la SNCF.
Le patron d'EDF a pas arrêté de dire qu'il voulait être une entreprise marchande. Et il s'est battu avec Matignon sur cette thématique-là. Par
exemple. J'entends bien, mais je veux dire, il y a ce qu'il veut, après il y a la réalité. Bon, et on voit bien, la SNCF, je veux dire, d'ailleurs c'est souvent, ça oscille souvent, je veux dire, un coup on l'appelle service public, un coup on l'appelle entreprise. Bon, alors j'ai l'impression que quelque part, quand la SNCF utilise le mon entreprise, elle se rachète une forme de vertu. Pourquoi ? Parce que je dirais, il y a un vrai sujet avec un réseau qui est en décrépitude avancée. Il y a aussi un vrai sujet social. C'est une entreprise qui est en grève quasiment tous les ans. Je veux dire, c'est quasiment...
Ah ben, elle a été tous les ans au moins une fois en grève depuis 1947. Hein.
Si je suis un petit peu impertinent, c'est à se demander si c'est pas même dans les statuts de la SNCF d'être en grève tous les ans. Bon. Et je dirais, c'est une société qui a un cœur de métier qui est très connu, et ensuite qui a beaucoup de périphériques qui le sont beaucoup moins.
Et qui rapportent des sous.
Et donc on peut même se poser la question, je veux dire, si c'est un hasard, je pense que ça n'est pas un hasard, et que comme le cœur de la SNCF est quelque chose qui est une espèce de totem politique, social, ben je dirais, pour essayer de contourner la difficulté de gérer ce cœur de métier, ben je dirais, on a créé des satellites qui, eux, dans leur fonctionnement, se rapprochent des entreprises. Donc par rapport à la question que vous nous posez, alors D'abord, je pense que la SNCF n'est pas une entreprise, c'est un service public. C'est pas négatif, mais c'est pas une entreprise parce qu'elle ne répond pas uniquement aux lois du marché. Et que si on a le gouvernement qui décide de lui attribuer des nouvelles missions, eh bien, je dirais, elle sera aux ordres. Donc, est-ce qu'on doit l'évaluer? Est-ce qu'on doit la considérer avec tous les critères habituels d'une entreprise? Moi, je pense que non.
C'est très clair. Alors, une entreprise qui n'obéit pas à toutes les lois du marché, c'est absolument certain. Quand vous avez un pouvoir politique qui veut en faire un outil d'aménagement du territoire, alors qu'elle, elle veut faire de l'argent en vendant des billets de train, c'est normal que le pouvoir paye. S'il veut que sur le train du quotidien, l'usager ou le client, maintenant ça y est, on dit client, ne verse qu'un euro sur quatre, c'est le politique qui paye, c'est normal. Si on veut garder des lignes dites petites, alors qu'elles seront jamais rentables, ouvertes, pour des raisons d'aménagement du territoire, c'est normal que le politique... Je vous rappelle ce qu'avait dit Guillaume Pépi en son temps. Il y a certaines lignes, il avait dit, si on mettait des taxis pour transporter le peu de gens qu'il y a à transporter, ce serait moins cher que de garder la ligne ouverte.
Donc, c'est que drôle. Ça veut dire que l'évaluation précise de ce service-là n'est pas économique.
Normal, pas normal, Patrice Geoffron, la SNCF.
Alors, on pourrait faire un exposé très long, mais on ne va pas avoir le temps. En deux temps, qu'est-ce qu'une entreprise normale ? Est-ce que la SNCF est une entreprise normale ? Et moi, j'aurais déjà beaucoup de difficultés à répondre à la première question.
Répondre à toutes les lois du marché. Vivre dans un monde concurrentiel avec une offre et une demande.
Il se trouve que la SNCF...
Et le risque de faillite.
C'est à la fois un réseau, SNCF Réseau, qui est en monopole, évidemment, et c'est SNCF Voyageurs, et c'est SNCF Gare et Connexion, et c'est Keolis, et bon. Donc la réponse à la question ne serait pas exactement la même selon ceux qu'on regarde, disons, dans la galaxie SNCF. En tout cas, moi, le point qui me paraît important, c'est d'observer, et c'est un point commun d'ailleurs avec EDF, qui a d'immenses chantiers au-devant, notamment pour le déficit d'investissement dans l'infrastructure en particulier, et qui court sur des dizaines d'années. Lorsqu'on regarde, de mémoire, l'âge moyen des actifs ferroviaires en France versus en Allemagne, et si on fait la moyenne de tout, ce qui est totalement idiot, mais enfin, le résultat est le suivant comparativement à l'Allemagne. En France, on est à peu près à 30 ans, en Allemagne, on est à peu près à 17.
C'est ce que j'avais en tête. C'était le rapport Spinetta qui avait mis ça en avant.
Donc on a beaucoup accumulé de retard, et Farandou, par ailleurs, et qui me paraît en tout cas bien tenir sa maison, en tout cas de la meilleure manière possible, a une vision qui est le x2. Qui est de dire comment est-ce qu'à terme, on peut augmenter, multiplier par deux la part modale du fret et du transport de voyageurs. Évidemment, ça ne se fera pas à moyen constant, ça ne se fera pas à infrastructure constante, et ça ne se fera pas non plus à utilisation, à moyen constant de l'infrastructure. C'est-à-dire, grosso modo, il faut parvenir, et c'est notamment l'enjeu d'un certain nombre de dispositifs de signalisation, à faire fonctionner, à faire transporter plus de trains sur la même infrastructure. Donc il y a un gros objectif d'optimisation. Et puis, last but not least, il faut naturellement que les fournisseurs d'équipements, notamment Alstom, soient au rendez-vous au bon moment. Donc on a un immense chantier industriel. Et pour conclure, finalement, moi, ma perception, c'est qu'en fait, on a une formidable réussite du XXe siècle qui a beaucoup vieilli au XXIe. Qui appelle une révolution, notamment dans l'infrastructure, dans les années à venir.
Presque 11 milliards d'euros d'investissement en 2023, dont un tiers à la charge de la SNCF. On va être à un an et demi de retard sur les nouvelles rames attendues. Il y a 115 rames qui sont dans les tuyaux. Alstom a des petits problèmes industriels, visiblement.
Nous le savons.
Oui, parce que vous fournissez du matériel pour les trains, notamment des compresseurs.
Oui, surtout pour les tramways.
Oui. Une entreprise qui n'obéit pas à toutes les lois du marché, Xavier Timbaud. Une entreprise qui, objectivement, ne peut pas faire faillite. Car elle a une évidente garantie implicite de l'État. L'État qui a quand même repris à sa charge 35 milliards d'euros de dette de la SNCF au terme de la réforme ferroviaire qui mettait fin au statut. Vous diriez que c'est une entreprise normale ou elle n'est pas normale et c'est comme ça.
Moi, je rejoins Patrice, c'est assez difficile de définir une entreprise normale. En fait, on va trouver des petites graines d'anormalité dans toutes les entreprises à un moment ou à un autre.
Entre des petites graines et des platanes.
À part chez Laurent Bonsky.
Oh, il est très sympathique ce matin. Merci.
Bon, voilà. Aujourd'hui, Xavier est aimable.
Ça, c'est le premier point. On sait pourquoi la SNCF n'est pas une entreprise normale. Parce qu'il y a une position de monopole naturel avec, on l'a dit, un service public à rendre. La SNCF a un passé glorieux, a un avenir extraordinaire. Bon, son problème, il est plutôt dans le présent aujourd'hui et dans la transition entre ces deux. Donc, on ne recherche pas la normalité, en fait, chez la SNCF. Et on attend, pour le futur de la SNCF, une contribution majeure à la transition énergétique dans les mobilités, des personnes, des marchandises. Donc, c'est un élément essentiel et on voit bien que ça ne va pas en faire une entreprise normale du tout. Bon, par contre, il y a un point qui est quand même important. Je pense que ça fait c'est un peu comme ça qu'on peut lire de façon positive l'ensemble des réformes qui ont été faites sur la SNCF. Il y a quand même un besoin de transparence. C'est-à-dire que la SNCF soit pas une entreprise normale, qu'il y ait des opérations de la SNCF qui soient subventionnées, que le réseau soit...
C'est normal qu'il y ait des subventions.
Tout ça, que le réseau soit soumis à des lois de marché qui sont différentes de celles des transports de voyageurs sur les lignes à grande vitesse, que les régions veuillent subventionner des petites lignes. Tout ça est assez logique et il est tout à fait nécessaire d'avoir des instruments qui permettent de le faire, mais on a aussi besoin d'avoir une transparence des comptes. C'est-à-dire, on peut pas dire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par transparence des comptes?
Transparence des comptes.
J'ai reçu hier, sous embargo, les comptes de la SNCF.
Non, mais c'est
que. J'ai parfaitement compris, cash flow, EBITDA.
C'est parce que les choses ont évolué. Si vous regardiez la SNCF il y a 20 ans, en fait, vous aviez un gros paquet avec un résultat qui voulait rien dire parce qu'il y avait une subvention qui n'était pas imputée à quoi que ce soit, à telle ou telle mission. Et du coup, vous saviez que le gros paquet, train à grande vitesse, petite ligne, transport de marchandises, logistique, opérateur de tramway ou de transport en commun dans certaines villes, tout ça, globalement, ça perdait de l'argent. Avec une subvention publique. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Quand on sépare en morceaux, on met le réseau d'un côté, on met les petites lignes régionales avec la subvention des régions qui apparaît, on commence à approcher une situation dans laquelle on va pouvoir, par exemple, calculer combien coûte un voyageur sur une petite ligne en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Mais cette information, elle est fondamentale parce que peut-être que Guillaume Pépi a raison. Moi, je pense qu'il n'a pas tout à fait raison et que c'est quand même encore un peu moins cher que le taxi, qui est quand même très cher.
C'était un peu un effet de manche. Oui, ok.
Mais, parce que un taxi pour aller de Périgueux à Bordeaux, par exemple, c'est très très cher. C'est vraiment très très cher.
Je pense pas que Bordeaux-Périgueux soit une ligne forcément catastrophique, mais il y a des lignes où il y a personne. Enfin, franchement.
Ok. Mais c'est aussi des choix qui ont été faits dans les régions.
Oui,
c'est
mais ce sont des choix politiques. Je suis d'accord. C'est aux régions de payer.
Mais c'est surtout aux régions qu'il faut renvoyer ces décisions de gestion en leur disant, regardez, vous faites des choses. Ok, ça coûte très très cher. Vous êtes content de faire des choses qui coûtent très très cher. D'accord, mais expliquez-le à vos contribuables, à vos électeurs, et puis assumez vos politiques. C'est pas à la SNCF de porter.
Et là,
ça.
Vous pensez qu'il y a pas assez de transparence.
Et je pense que on a fait des progrès dans la transparence, que aujourd'hui la structuration du groupe SNCF entre ces différentes entités permet de mieux lire ces questions. Je pense que les contrats entre SNCF et les régions permettent aussi de mieux mesurer et comprendre quelles sont les subventions aux petites lignes. Je pense que le fait que la SNCF voyageurs aient pour objectif d'afficher un excédent dans l'exploitation des trains qui sont en cours d'ouverture à la concurrence est aussi un objectif qui peut se défendre. Voilà, donc tout ça va plutôt dans le bon sens. Après, ça c'est le verre à moitié plein. On pourrait le regarder à moitié vide en disant
toujours
que très très loin du compte, que tout ça reste encore peu compréhensible, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de choses qui sont étranges. Voilà, donc il y a beaucoup de poussière sous beaucoup de tapis.
Oui, alors allez-y, Laurent Vronsky, Patrice Geoffron, et puis après on avance, bien sûr.
Je pense que la notion de réseau et d'infrastructure est absolument fondamentale. Je veux dire, il faut bien se rendre compte que si on a une infrastructure, c'est-à-dire que si on a un réseau ferré qui n'est pas en état, le TGV, ça va devenir une invention qui va permettre aux voyageurs d'arriver plus vite en retard. Et moi, la question que je me pose, vous voyez, c'est, je veux dire...
En l'occurrence, le TGV, c'est plutôt en état, là.
Oui, mais c'est comme si vous avez une Ferrari sur un chemin de terre. Mmh. Bon, et la question que je me pose, c'est que je pense notre État, notre pays, va avoir un rendez-vous avec l'histoire économique, parce qu'il y a une infrastructure très coûteuse à rénover, à mettre en place, mais on peut dire que c'est la même chose pour les centrales nucléaires. Il y a toute une série de sujets d'assurer la transition énergétique, il y a toute une série de sujets où on voit que là, il va y avoir un appel d'air absolument colossal. Et je pense que ça peut servir de transition aux prochaines questions qu'on va évoquer.
Oui, absolument. Et il y a Farlooking qui me dit pourquoi la SNCF ne va pas voir au Japon comment les compagnies ferroviaires privées fonctionnent. Là-bas, les trains sont propres à l'heure et jamais en grève. Avec le cas japonais est absolument phénoménal.
Je connais.
Oui, alors absolument. Le cas japonais, c'est un cas intéressant, mais il faut quand même voir que le Japon est un pays extrêmement dense, dans lequel les lignes en question desservent des points qui sont le point de départ, le point d'arrivée, avec beaucoup de densité de population. Donc il y a beaucoup de voyageurs, donc il y a plus d'argent que sur une ligne Périgueux-Bordeaux, qui, même si ça vous paraît une ligne assez fréquentée, en fait...
Non, je ne la prends pas à Périgueux-Bordeaux, mais...
La densité à Périgueux et à Bordeaux est plus faible que n'importe où au Japon.
Mais le fait d'être parfaitement à l'heure, comme au Japon,
Mais ça, c'est une histoire de...
Jamais en grève, comme
aujourd'hui. C'est une histoire d'argent, Nicolas.
Ah, bah, c'est qu'une histoire. Bah, non.
Mais non, mais si, être à l'heure, c'est une histoire de signalétique qui fonctionne.
Ah oui, bah.
C'est une histoire de rails qui sont entretenus. C'est pas, bah, je veux dire, les trains, ils arrivent pas à l'heure en France, pas parce que, les conducteurs se lèvent pas, ou arrivent en retard au travail. Les trains, ils arrivent pas à l'heure parce qu'il y a des incidents sur les voies, parce qu'il y a des signalétiques qui sont en panne, parce que, voilà.
En tout cas, ils disent à la SNCF que tous leurs TGV sont blindés. Hein. Ils gagnent pas tous de l'argent à cause des péages, mais les TGV sont blindés. Bon, mais enfin là, c'est une comparaison de la grande vitesse japonaise. Et... Je pense que c'est à ça que pense Farlou. Oui, Patrice Geoffron, allez-y.
Oui, alors, moi, il me semble que l'anormalité des anormalités dans cette entreprise, c'est qu'en fait, c'est un domaine d'activité qui produit beaucoup. Je n'ai pas utilisé un jargon d'économiste d'externalité positive.
Ici, vous avez le droit d'utiliser ce jargon.
Et qui en capte une toute petite partie. Imaginons par exemple la situation de la dette publique aujourd'hui, si on avait beaucoup plus investi dans le train, non pas au XXe siècle, mais au début du XXIe siècle. Les conditions dans lesquelles on se serait présenté au moment de la crise des Gilets jaunes, si on avait eu plus de trains du quotidien, les conditions dans lesquelles on se serait présenté au moment de la crise Covid, qui est une crise dont l'impact a été renforcé par la pollution de l'air. Il y a beaucoup de travaux du monde médical. Et puis naturellement, lorsque Vladimir se met à nous faire des misères, si on avait eu également plus de transports publics ferroviaires, eh bien probablement que par exemple la ristourne à la pompe de l'État, à laquelle Total s'est associé par ailleurs quand même de 8 milliards d'euros en 2022, eh bien probablement qu'on aurait fait des économies. Et puis il y a un autre type d'externalité que capte pas la SNCF et qui me semble problématique également dans son business model, pour parler dans ces termes, c'est l'impact sur le foncier. L'impact sur le foncier des villes desservies. Et enfin, tout dernier élément qui, lui, pour le coup...
Vous voulez dire quoi par l'impact sur le foncier des villes desservies? Oui, automatiquement, elle prend du foncier. Puisqu'il y a une gare, puisque...
Non, j'ai pas compris le... sur la valeur du mètre carré dans
Bordeaux, par exemple,
depuis qu'on est passé de 3 heures à 2 heures.
Ah ben, clairement.
De choses, et qui ne revient pas à la SNCF, c'est un tout dernier élément. Et enfin, singularité que j'ai apprise il y a quelques années dans un petit déjeuner avec Guillaume Pépi, qui m'a expliqué un truc qui m'avait totalement échappé jusqu'à maintenant. Il y a en France à peu près 3 fois plus de villes, écoutez bien, 3 fois plus de villes où s'arrête un TGV que dans le reste de l'Europe entière. Or, nous n'avons pas le réseau de TGV le plus développé. Le réseau le plus développé, il est en Espagne. Alors, il roule moins vite. Il roule moins vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, on a inventé le TGV omnibus. Le TGV qui s'arrête partout, alors c'est évidemment très très vertueux. Ça veut dire aussi que si on vit dans une collectivité qui n'a pas son TGV, il y a un coût d'opportunité et des tas de problèmes qui sont ressentis par les populations. Et me semble-t-il, ça nous conduit en tout cas à avoir un modèle du TGV qui est très différent de celui qui a été adopté par nos voisins.
Mais ce que vous dites là, c'est positif ou négatif en fait? Parce qu'effectivement, il arrive à Marseille et puis après c'est un omnibus sur une ligne normale, ça prend des plombes pour aller jusqu'à Nice. Bon.
Oui, la question c'est ce qu'il fait avant d'arriver à Marseille et le nombre d'arrêts, mais les choses ont peut-être évolué assez marginalement, mais en tout cas il me semble que l'ordre de grandeur du nombre de villes où le TGV s'arrête en France, alors peut-être pas au quotidien, c'est à peu près 3 fois plus élevé qu'encore une fois dans le reste de l'Union européenne.
Et donc c'est trop?
En tout cas, c'est une singularité qui, évidemment, a un impact sur la rentabilité, sur les conditions d'exercice.
J'avance. Je poursuis avec vous, Patrice Geoffron, parce que c'est une idée que vous m'avez soumise hier. C'est vrai que quand on regarde, qu'on fait la liste de l'ensemble des petites reculades sur des engagements, des promesses, des contraintes, des normes vertes. Alors là, le DPE, on l'a changé, sans doute. Je sais que Xavier connaît très bien le sujet. On l'a sans doute changé pour de bonnes raisons. MaPrimeRénov', bah oui, on a retiré une partie des crédits prévus. Les pesticides agricoles, Ecophyto a été gelé. Et puis le Green Deal européen est en train d'être un peu retricoté parce que ça râle dans tous les pays d'Europe. Les villes qui se rendent compte que ça passe pas auprès des populations reculent les dates des ZFE, les zones de faible émission. C'est ce qu'on a fait à Marseille, les gens n'en veulent pas. Ouh là là, tout le monde va s'énerver. Le bonus écologique est passé à 4 000 €, il était à 5 000 € pour acheter sa voiture électrique. Le leasing social, ça marche tellement bien que on l'a corseté d'ores et déjà, puisqu'on a déjà doublé le nombre de commandes prévues. On en voulait 25 000, on en a validé 50 000, on peut pas aller plus loin. Vous y voyez une révolution verte ou pas?
Alors, en fait, il y a beaucoup...
Juste en teasing, on a une 40, mais on y continue après.
Oui. Il y a beaucoup plus insidieux que ça. C'est moins les reculades que l'inaction et le temps perpétuel de la réflexion.
Quoi pensez-vous?
Considérablement en retard. Eh bien, un futur président de la République, qu'il était également, nous a dit il y a dans la campagne électorale que son mandat serait écologique ou qu'il ne serait pas. On s'attendait à un corps de règles adopté rapidement avec de la mise en œuvre et de fait, on ne l'a pas eu. En tout cas, on ne l'a pas eu alors que les chiffres sont tout à fait clairs et ce sont notamment des chiffres qui sont fournis par l'administration elle-même. Dans le domaine des transports, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici, il s'agit de passer entre maintenant et 2030, 2030 c'est demain, de 130 millions de tonnes à 90 millions de tonnes de CO2. Ça, c'est l'objectif. Alors, on peut considérer que tout ça est coûteux, mais si on parvient à faire ça, on économisera des dizaines de milliards d'euros d'importation de pétrole et de produits pétroliers. L'enjeu, il est là. Et donc, le fait d'attendre est très coûteux. Il est très coûteux parce qu'une tonne de CO2, c'est ce que nous dit également l'administration française, a des coûts pour la collectivité mondiale de 250 euros la tonne en 2030. Et donc, plus on attend, évidemment, plus ces coûts se diffusent. Mais ça a également des coûts sur nous. Encore une fois, rester dépendant des importations de pétrole, c'est être à la merci d'une matière première qui traverse le détroit d'Ormuz, qui va remonter par la mer Rouge, toute une série d'endroits, et on n'est absolument pas à l'abri d'avoir x2 sur le prix du baril pratiquement du jour au lendemain. Donc il faut se mettre à l'abri de ce type de dépendance.
On en reparle dans un instant, le sujet me passionne. Alors après, il y a ceux qui vous disent, oui, mais on a toujours l'impression d'être le mauvais élève, alors que finalement, on se rend compte quand on regarde quand même, quand on se compare, on se console quand même, j'ai l'impression, Patrice Geoffron. Puis il y a des choses, moi, qui m'ont intéressé, notamment dans les communications de l'Agence internationale de l'énergie, qui attribue à cette baisse de la demande, à la fois de gaz et de pétrole, qu'elle anticipe pour 2024, des conséquences, des premiers effets concrets, des efforts de transition verte, notamment en essayant de trouver des alternatives aux énergies fossiles, notamment du fait de la sobriété qui s'est quand même un petit peu installée dans nos modes de vie. Je sais que Xavier Thimbault est très sensible au sujet du réchauffement climatique, donc il me dira ce qu'il en pense. J'entends en tout cas ce que vous me dites, on marque une pause. Ça nous amènera d'ailleurs à poser la question de savoir si un contre-choc énergétique est actuellement en train de se dessiner avec cette très très forte baisse de la consommation qui a été dévoilée avant-hier par GRT Gaz. On est retombé au niveau de 1996 en France. C'est tout à fait surprenant. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrice Geoffron, professeur à Paris Dauphine et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Alors, les rencontres d'Aix, c'est le 5-6 juillet, oui. Je crois. Voilà. Enfin, Gervé Lorenzi m'a déjà écrit en m'alertant sur le fait qu'il fallait être là. Alors, évidemment qu'on sera là comme tous les ans, qu'il ne s'inquiète pas. Xavier Thimbault, directeur principal de l'OFCE. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus. Ça fait longtemps que vous êtes secrétaire général de Croissance Plus.
Oh, pas tant que ça, mais j'ai eu de la promo. Il y a plus de boulot. Bon.
Et puis, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue, on a souvent raconté ici ce que sont les écoles Espérance Banlieue. On n'en parle pas assez d'ailleurs dans les médias des écoles Espérance Banlieue.
Absolument.
C'est assez rare. Je suis persuadé que si vous dites ça, vous faites un sondage. Que sont les écoles Espérance Banlieue? Je pense que les gens ne savent pas.
Absolument.
On parlait donc des efforts à faire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je résume votre pensée, vous me dites si j'ai bon, Patrice Geoffron, puis je ferai réagir avec Xavier Thimbault. Nous devons absolument accélérer nos efforts de manière à réduire notre dépendance aux importations d'énergie fossile qui nous coûte une fortune.
Exactement.
Bon. Ok.
Voilà, 116 milliards d'euros en 2020.
Ça, c'est quoi le 116 milliards d'euros ?
C'est la facture énergétique. Pétrole et gaz pour l'essentiel, avec évidemment une explosion du prix du gaz. On y reviendra puisqu'il est à la baisse maintenant.
On était à 22 euros le mégawatt-heure le week-end dernier aux Pays-Bas.
Et on était à 15 fois plus à certains moments en 2022. Donc cette dépendance, elle est délétère. Et donc je pense qu'il faut inverser le raisonnement. Généralement, on considère qu'il faut réduire des tonnes de CO2 parce que, on en émet depuis deux siècles, on a une responsabilité spécifique. Et à ce moment-là, il y a un contre-argument qui arrive généralement qui consiste à dire oui, mais est-ce que tout ça a du sens
si en fonction
de ce que fait la Chine, de ce que fait l'Inde? Mais, il faut se convaincre, et c'est ce que nous ont appris douloureusement les six dernières années, depuis la crise des Gilets jaunes, c'est qu'on est très, très, très fragile. À chaque fois, ça conduit l'État à intervenir assez massivement. Sur les 1 000 milliards de dettes qui ont été accumulées depuis une bonne dizaine d'années, on peut en sourcer une partie qui correspond à différents chocs qu'on aurait amoindri. Crise des gilets jaunes, crise Covid, et puis évidemment nos ennuis avec Vladimir, si on avait été moins dépendant de nos importations de pétrole et de gaz.
Ce qui me frappe dans votre réflexion, Patrice Geoffron, c'est que vous ne m'expliquez pas que l'enjeu final, c'est de sauver le monde, mais c'est déjà de sauver notre porte-monnaie. C'est pour des raisons économiques que des raisons environnementales que vous me...
Moi, j'ai passé 20 ans à dire l'inverse.
Comment ça, à dire l'inverse?
À mettre en avant, comme beaucoup de collègues, la dimension environnementale et à considérer que par ailleurs, on allait créer des emplois verts, etc. L'expérience est en train de prouver que ça ne nous permet pas d'aller suffisamment vite. Si j'étais ailleurs que sur cette chaîne hautement honorable, je dirais qu'on en a assez, on a un certain nombre d'en avoir assez à pisser dans un violon, je ne l'ai pas dit. Mais de fait, c'est un peu la sensation. Donc il me semble qu'à la fois tactiquement, mais également parce que c'est fondé économiquement, on a tout à fait un intérêt à considérer ce que les économistes appellent, jargon à nouveau, les co-bénéfices. Donc agir pour le climat, qu'est-ce que ça produit chez nous? Eh bien, ça produit chez nous notamment beaucoup d'indépendance. C'est quand même des choses qu'on avait vues très bêtement. On est peut-être au moins deux à s'en souvenir ici dans les années 70.
Absolument.
C'est des questions de sécurité d'approvisionnement et qui coûtent des milliards.
Non, mais vous êtes un agitateur d'idées en disant ça et j'apprécie. Comment vous réagissez à tout ça, Xavier? Je disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, vous êtes probablement parmi mes invités celui qui est foncièrement le plus préoccupé au fond de lui par l'avenir du monde et de son environnement et de son climat.
Ok.
C'est l'impression que vous me donnez.
Oh, il y a match.
Hein. Bah, vous avez que des boomers, en fait, dans votre émission. À part moi.
Ça vous inspire quoi?
Non, mais parce que je ne suis pas le seul à être préoccupé par
le climat. Non, mais j'ai quand même.
Votre panel n'est pas très bien échantillonné sur la population de la France. Hein.
Je fais quand même parler une centaine de voix par an cette émission, ce qui est absolument un record pour une émission d'actu quotidienne de talk show.
Et des voix qui sont tout à fait honorables.
Je trouve que parmi ces voix.
Ils sont remarquablement intelligents.
Mais très sympathiques, Xavier.
Mais oui. Non, mais je trouve que parmi ces voix, vous faites partie de ceux qui. Et comment vous réagissez à ce que nous dit aujourd'hui Patrice Geoffron?
Moi, j'entends ce qu'il dit.
Il y a un côté storytelling aussi dans sa façon de raconter l'histoire, et c'est peut-être pas du tout inintéressant.
C'est pas du tout inintéressant, et je pense que c'est un argument qui est important. Bon, je pense pas qu'il se substitue à l'argument climat, mais en tout cas, il l'empêche pas. Donc,
il est destiné à produire les mêmes effets.
Moi, je le prends, cet argument, sans réserve.
Selon la façon dont vous expliquez quelque chose, vous obtenez un résultat ou un autre, quelquefois.
Oui, c'est vrai. Bon, ok, mais soit. Mais la question, c'est pas celle-là. La question, c'est pas chercher des arguments pour qu'on le fasse, c'est comprendre pourquoi on le fait pas. Alors, on pourrait dire on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas les bons arguments. Mais je crois pas.
Pourquoi on va pas assez vite, vous voulez dire?
Oui, pourquoi on va pas assez vite? Pourquoi on recule? Pourquoi? Et en fait, moi, ça m'inquiète. Pour trois raisons.
Prime Rénov, pesticides, ZFE, bonus, voilà. Tout ça, ça vous inquiète?
Trois raisons. Il y a la première raison. Bon, il y a une question budgétaire là qui est en train d'émerger. On va peut-être en parler
pour
les questions sociales. Mais il y a du rabot. Et effectivement, à Bercy. Même si à Bercy, on est très engagé sur les politiques environnementales aujourd'hui, quand on arrive à gratter un milliard, on gratte un milliard, quoi. Après, on verra l'année prochaine. Donc, il y a quand même cette... On pouvait avoir le sentiment, après le quoi qu'il en coûte, après les engagements d'Emmanuel Macron sur le climat, que de ce côté-là, il n'y aurait pas de limites. En fait, on se rend compte que si, il y a des limites. Mais ce n'est pas le plus grave. En fait, le plus grave, il y a deux choses qui conduisent à l'échec. La première, c'est on n'est pas capable de répondre aux contestations. Quand quelqu'un dit je suis pas d'accord, ça détériore ma situation, on sait pas quoi faire.
C'est vrai.
Mais même à commencer par lui expliquer, mais en fait non, ça détériore pas ta situation.
Ah ben si, parce que lui, il va arriver avec sa facture du mois précédent.
Mais non, je suis désolé, mais quand vous voyez des agriculteurs qui vous expliquent que leur problème, c'est la taxe sur le diesel non routier, et qui viennent avec leur tracteur à Paris, mais vous savez qu'ils ont dépensé en essence pour venir à Paris.
C'est démago, hein.
Mais c'est pas du tout démago. Ils ont dépensé en essence.
Oui.
En essence pour venir à Paris, plus que le surcoût que représente la diminution de la taxe sur le diesel non routier pour un mois.
C'est possible. C'est possible, mais...
D'accord. Ok, mais très bien. Bon. Donc déjà, ça c'est la première chose, on ne sait pas répondre, on ne sait pas répondre, donc on recule. Ouais. Première chose. Deuxième chose,
GNR, c'est vrai dans ma liste, je le rajoute,
deuxième.
GNR.
Oui.
Xavier est courageux parce qu'on est à moins d'un kilomètre du salon de l'agriculture.
C'est ça,
oui. Oui, c'est vrai qu'on est tout près.
Oui. Vous voulez que je donne l'adresse Deuxième point qui est quand même...
Alors, Xavier au 06.
Deuxième point qui est très, très inquiétant, c'est en fait l'administration, qui est capable de donner des objectifs, qui est capable de faire des analyses qui sont elles aussi très solides et très intéressantes et très pertinentes, n'est pas capable de mettre en place des politiques. Le leasing social, c'en est un exemple, c'est un désastre. On arrive avec un dispositif...
C'est un succès !
Non, c'est un désastre. On arrive avec un dispositif qui est mal calibré. On est
13 000 euros par voiture, on n'allait pas laisser ça open bar, on ne peut pas. 13 000 euros par voiture.
Qui a décidé qu'il fallait mettre 13 000 euros par voiture ?
C'est le bonus.
Mais pourquoi mettre 13 000 euros par voiture ? Pourquoi se mettre un coût d'abattement du carbone aussi élevé ? Parce que c'est ce que ça veut dire.
Je me souviens de la démonstration du membre du cercle de la semaine dernière. C'est extraordinaire la démonstration qu'il nous a faite. C'était Lionel Fontanier il y a 15 jours. Incroyable. Il nous a tous bluffé avec une démonstration combien ça nous coûte à la tonne. C'est délirant.
C'est délirant.
Délirant.
Mais comment on fait un dispositif comme ça qui est délirant, qu'on se dit au bout d'un mois, en fait, on n'avait pas prévu, mais on a multiplié par deux notre objectif de l'année en 4 semaines. Et comment ça se fait que dans l'administration, il n'y ait personne qui ait pu s'en rendre compte et qu'on
est obligé capable de nous dire... sortir des prix planchers 60 ans après la PAC.
Non mais, dans quel monde on vit ? Qu'est-ce que c'est cette administration qui n'est pas capable de proposer des dispositifs qui fonctionnent ?
Vous croyez que c'est l'administration qui a tout corseté ou c'est juste...
Ah mais peut-être que c'est le politique qui a imposé les 13 000 euros à l'administration. C'est presque pire dans ce cas-là.
La mécanique, je ne peux pas...
Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème. Je veux dire, si on fait des politiques comme ça, qui sont des politiques de gribouille, vous voyez, c'est d'un côté, on dit « Oh là là, il y a le changement climatique, il faut réduire les émissions. » On met un dispositif délirant qu'on arrête au bout d'un mois en disant « Ah bah non, on s'est
Xavier,
dans les calculs. »
Si c'est délirant, il y a un moment, il faut mieux arrêter et de reconnaître qu'on...
C'est comme
le DPE. Vous savez très très bien que c'était mal fagoté, qu'il fallait faire quelque chose.
Très bien d'arrêter un dispositif délirant.
Et pourtant, il y a le DPE, il y a bien des gars géniaux qui ont réussi à pondre cette idée complètement farfelue avec des éléments qui s'opposent.
Non mais c'est très bien d'arrêter un dispositif délirant quand il est délirant. Mais... Enfin, il faut quand même pas oublier qu'il y a quelqu'un qui l'a pondu, ce dispositif délirant, et que c'est celui qui l'arrête qui l'a pondu.
Vous connaissez le théorème d'Alain Madelin, hein. En politique, entre le machiavélisme et la connerie, choisissez toujours la connerie.
Ouais, non, mais c'est, mais là, on est XXL, hein, quand même.
Ah, c'est qu'à parfois, oui.
On est XXL parce que, je veux dire, c'est quand vous mettez en place un dispositif comme ça et que derrière vous l'arrêtez au bout d'un mois. Votre crédibilité, elle est égale à zéro. Comme par ailleurs, dès qu'il y a quelqu'un qui crie « ça m'arrange pas cette histoire », vous reculez, votre crédibilité, elle n'est pas non plus très augmentée.
Complètement d'accord.
Alors, non, mais ça compte. Bah, je veux dire, tout ça, au bout du compte, ça fait quoi ? Ça fait que ces politiques, pour provoquer la transition, pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, pour réduire nos émissions, elles demandent d'avoir des politiques qui sont intelligentes, acceptées, qui sont conduites sur le moyen terme, avec persistance, pédagogie. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Le contraire. Le contraire, on fait des politiques qui ont un mois de durée de vie. Mais enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ?
Que Madelin a raison.
Et on dépense 10 milliards, 20 milliards pour le bouclier tarifaire. Et après, on dit qu'il n'y a plus d'argent.
8 milliards pour subventionner le pétrole.
Enfin,
la facture, en plus, l'INSEE avait regardé les 8 milliards pour aller gratter 20 centimes à la pompe. Allez, en gros, ça faisait entre 90 et 100 euros par automobiliste sur
la période. Et ça, c'est deux questions. C'est une double incompétence politique, en fait. C'est-à-dire pas de capacité à pouvoir élaborer des politiques et à les assumer et à les conduire et à les affiner, s'il le faut, au fur et à mesure de leur application. Et pas de capacité de faire accepter ces politiques.
Non, mais je suis...
C'est embêtant, hein.
Non, mais...
C'est embêtant.
Vous êtes... Je mets un élément supplémentaire. Est-ce qu'on est encore dans du gribouille en allant chercher 10 milliards en grattant les tiroirs de l'État pour essayer de passer par décret pour éviter le Parlement avec une loi de finances rectificative qui, de toute façon, verra le jour à l'été, visiblement. Et maintenant, c'est le coût des dépenses sociales. Je vais pas vous refaire la liste. L'indemnité chômage, la CSG des chômeurs, les ALD, les pensions indexées ou pas indexées en 2025, des allocations familiales à nouveau. Durci en termes de conditions de revenus. Par rapport à ce qu'on s'est dit, ça vous inspire une réaction, Laurent Wonski ? Et peut-être en rajoutant mon histoire de dépenses sociales ?
Je vais apporter un témoignage empreint de concrétude, parce que dans d'autres pays, nous avons des gens qui pensent, ils font que penser, c'est très bien. Puis après, il y a des gens comme moi qui
dépensent aussi.
Qui pensent un peu, voilà, qui pensent un peu.
Dépenses.
Et qui sont obligés de faire beaucoup. Bon, et je pense que pour que la pensée soit enrichie, il faut penser, il faut faire, il faut apprendre de ses erreurs, il faut repenser, etc. Sur le constat, est-ce que oui ou non, on doit vite réduire les émissions de carbone ? Enfin, je veux dire, c'est comme être pour la paix dans le monde. Évidemment, on est tous pour. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand penseur pour savoir qu'il faut le faire. La question, c'est, je pense qu'il faut mettre en place comme un plan Marshall. Et pour faire un plan Marshall efficace...
C'est de l'argent public, un plan Marshall, non ?
Absolument. Mais il ne faut pas rêver. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas, dans les temps qui sont imparties, avec l'urgence qui est impartie, là, on n'est pas dans le temps très long. Je veux dire, il y a une vraie urgence. C'est-à-dire que si on meurt guéri, on aura perdu. Et un thème qui revient inlassablement depuis maintenant à peu près un mois et demi, deux mois, c'est le thème de la simplification. Alors, c'est un thème chapeau, mais je vais prendre un exemple très simple que je connais bien, c'est le nôtre, parce que je partage certaines des convictions qui ont été développées sur ce plateau. Je pense qu'il y a un aspect géopolitique qui est absolument considérable et qui a été sacrifié depuis à peu près 50 ou 60 ans à l'autel de la politique court-termiste. Et il faut savoir que si aujourd'hui on crée une situation de dépendance sur une matière première qui est fondamentale, aujourd'hui c'est le gaz pétrole, mais demain ça peut être les terres rares, ça peut être beaucoup de choses, eh bien notre pays ne sera plus du tout indépendant et va devenir un vassal ou un esclave d'une autre puissance. Donc ça, j'espère que dans cette transition que nous allons vivre, j'espère que justement quelqu'un aura quelque part cette vision géopolitique qui nous permettra d'éviter de troquer un nœud coulant pour un autre. Donc ça, c'est la première chose. Nous nous sommes intéressés, nous pensons qu'en clair, on va rentrer dans une période d'énergie rare. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de demandes et qu'on a un outil industriel, notamment les centrales nucléaires, qui est vieillissant. Et on voit les difficultés qu'on a
en ce moment qu'il y a deux ans. Hein.
Oui, c'est mais oui. On l'a réparé.
Oui.
Et si vous voulez regarder la difficulté qu'on a à faire pousser des EPR, donc c'est pas quelque chose qui va se faire en instantané. Donc nous, fort de ces deux constats, on s'est intéressé à devenir autosuffisant en électricité. Il n'y a pas 50 solutions, hein, on est Argenteuil. Bon, donc on a regardé. Pour notre entreprise, quels étaient les coûts et quelles étaient les lois pour mettre des panneaux solaires. Mais c'est une caricature administrative. J'oserais dire, c'est pas cadeau, mais le problème principal, il n'est pas au niveau du coût. C'est n'importe quoi au niveau des règles. Encore, et si vous voulez, tous les exemples qui ont été cités depuis un mois et demi, et on peut remercier les agriculteurs, l'exemple le plus connu des Français, c'est celui des haies, mais je vous invite en tant qu'entreprise à regarder les lois pour mettre des panneaux solaires. C'est débile. C'est-à-dire que si vous les mettez sur votre toit, c'est quelque chose. Si vous faites des ombrières, c'est autre chose. Si vous les mettez comme si, c'est autre chose. C'est un casse-tête. Ça donne mal à tête à une aspirine. Donc je pense qu'une des solutions, déjà, il va falloir faire un plan Marshall accéléré. C'est-à-dire faire des choses rapides et efficaces et arrêter la technocratie à outrance. C'est-à-dire d'avoir des fonctionnaires qui ne pensent qu'à faire des lois et après avoir des fonctionnaires qui pensent qu'à les contrôler. Et plus on va complexifier le système, plus on va ralentir le déploiement. C'est urgentissime. Ça ne touche pas que la transition énergétique, ça touche l'agriculture, ça touche la production, ça touche l'implantation industrielle, et c'est un thème récurrent. Et ça, je pense que c'est une condition sine qua non pour une transition énergétique accélérée.
La simplification, on n'en a jamais autant parlé. Alors, il y a une loi qui va arriver. J'espère que cette fois-ci, il y aura vraiment des
éléments... J'espère qu'elle sera simple.
Oui, j'espère qu'il y aura vraiment des éléments constitutifs. Juste, Xavier Timbaud, sur les dépenses sociales, c'est logique, il n'y a pas 10 000 solutions. Il va falloir en passer par là, parce qu'il est un peu minuit moins 5. On a beaucoup de dettes. On a plus de la moitié de la recette d'impôt sur le revenu qui part en remboursement des intérêts de la dette. On a des engagements qui ont été pris au niveau européen. Et on a des marchés sans lesquels nous ne pouvons pas fonctionner au jour le jour. Donc, on va envoyer des gages, quitte à aller chercher de l'argent sur les ALD ou les allocations familiales.
Oui, en substance, c'est ça. On sort d'une période, le quoi qu'il en coûte, où on a été très généreux, donc qu'on revienne à la normale et qu'on en profite pour raboter un peu, sachant qu'il y a quand même un peu de baisse de chômage, etc. Bon, ça peut s'entendre. Ceci étant dit, il y a
baisse de chômage, plus tellement en ce moment.
Mais il y a eu une baisse de chômage par rapport à il y a quelques années.
D'accord.
Bon, donc ça peut justifier un certain nombre de choses. Après, il y a quand même un élément qui n'est pas sur la table, enfin en tout cas un qui a été mis sur la table comme étant un point indépassable, c'est le fait de ne pas augmenter les impôts.
Mais en fait...
Ils
augmentent sans que ça se voit.
Alors, mais c'est ça le problème.
Si je vous fais la liste des dépenses fiscales... Quand vous passez un bonus de 5 000 à 4 000 euros...
C'est un double problème, ça.
C'est pas une hausse d'impôts, mais... Vous
parce qu'en fait, vous dites, je peux pas augmenter les impôts. Alors, pourquoi vous le dites ? Vous dites, je peux pas augmenter les impôts parce que la France aurait le taux d'imposition le plus élevé du monde développé.
Bah, c'est déjà le cas avec le Danemark, selon les
années. Mais a déjà parlé 50 fois.
Oui, il y a une partie de prélèvement obligatoire qui est du revenu différé.
Et donc, je vous renvoie à une étude de France Stratégie il y a 3 ans, qui calcule les taux d'imposition quand on enlève la partie retraite, qu'est-ce qu'on a ? On a la France qui est pile dans la médiane des pays européens. Bon, voilà, je mets ça juste à titre de réflexion. On peut pas dire, on ne peut pas augmenter les impôts parce qu'on a les impôts les plus élevés du monde. On a les impôts qui sont dans la moyenne.
La France, elle dit qu'il faut une taxe mondiale, un impôt minimum sur les milliardaires.
Oui, non, mais ça, sans doute.
J'ai 20 de Sao Paulo, là.
Sans doute. Mais bon, ok, en tout cas... la première chose, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas augmenter les impôts parce qu'on a des impôts trop élevés. Ce qui n'est pas vrai. De l'autre côté, on se dit, bon, bah, on va raboter sur les dépenses sociales, même si c'est compliqué à faire comprendre. Ce qui ne va pas aider à faire accepter les politiques par ailleurs, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, par ailleurs, on se dit, bah, on ne peut pas augmenter les impôts, mais on va quand même le faire un petit peu en douce par. Mais, enfin, bon. Tout ça, ce n'est pas une politique qui conduit à pouvoir être libre de faire de la justice sociale. Oui, c'est-à-dire que tout ça, c'est du bricolage. Vous avez à Bercy des gens qui sont très très forts.
On n'est pas en train de remettre en cause la redistribution monétaire. Enfin, elle est bien toujours là.
Mais on la bricole. On bricole dans un pays qui est sous tension. Moi, je suis pas sûr que ce soit très malin. Bon. Voilà, je suis pas sûr que ce soit très malin. Je pense que si on mettait les choses un peu à plat et qu'on disait, bah voilà ce qu'on fait, il y a des tas de choses qui seraient très acceptables. On pourrait baisser les APL si on disait aux gens qui payent des APL, mais regardez, ceux qui payent des impôts, ils en payent. Alors que là, quand on baisse les APL, ceux qui payent des APL, enfin, ou qui reçoivent plus les APL, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, et en plus, on baisse les impôts des riches. Mais c'est compliqué d'expliquer aux gens, bah oui, vous êtes pauvres, on vous enlève 5 euros d'APL, et par ailleurs, ben oui, effectivement, on va supprimer l'ISF. Comment vous expliquez la logique qu'il y a derrière ?
Ouais, mais je vois bien l'histoire.
Bah oui, vous voyez bien l'histoire.
J'explique la logique qu'il y a derrière sur le fait qu'il y a un moment, il fallait retrouver des niveaux de fiscalité impôt par impôt qui soient à peu près compétitifs par rapport à des pays qui nous ressemblent.
Non, mais Nicolas, si...
On peut pas avoir un IS à 33 ou 34 pendant des années quand on retombe à peu près en moyenne à 25, 24, non ?
Enfin, oui, mais là, vous me ressortez un peu l'argument. On a un taux d'imposition plus élevé que les voisins. Et moi, je vous dis, le problème, c'est que cet argument, il est faux. Voilà. Alors, le problème, c'est que si vous construisez votre justice sociale sur des arguments qui sont faux, moi, je vous promets une catastrophe.
Vous voulez réagir à ce qu'a dit notre ami Xavier Timbaud ?
Oui, moi je peux réagir.
Bon alors, pas trop long, parce que je voudrais aussi qu'on dise un mot du Qatar, là, je voulais en parler hier. Mais bon.
Ah, la concision est l'âme de l'esprit, donc je vais être concis.
C'est vrai que généralement, vous savez aller droit au but, tous d'ailleurs, mais sauf quand vous n'avez pas envie.
Alors moi, j'ai des sources un peu différentes de vous, Xavier, c'est pas l'étude France Stratégie. Moi, j'ai une étude tous les mois où je dois payer l'URSSAF, tous les trois mois où je dois payer la taxe ci, la taxe là, et puis...
C'est la concrétude.
La concrétude et le grand moment que nous attendons tous, c'est-à-dire en clair la fin d'année ou l'exercice fiscal où là on sait globalement ce qu'on va payer comme IS. Alors, je pense que, non, la France, je veux dire, tous les producteurs de richesse le savent, je veux dire, il y a une imposition qui est absolument démesurée, et en dehors de l'idée même de savoir, je dirais, si c'est juste ou pas, si on se compare par rapport à nos voisins, moi je suis en concurrence avec la planète, hein, et donc je vois bien les différences et les distorsions de compétition qui sont dues notamment à des éléments de taxation. Les impôts de production, je connais par cœur depuis 35 ans, ça fait 35 ans que ça dure. Donc il y a un vrai souci, mais à la limite, et c'est un argument que j'ai souvent avancé, parce qu'on le vit tous, si nous avions des services publics 5 étoiles, si tout marchait presque bien, si vraiment, je dirais, on pouvait se féliciter de la justesse de cet argent dépenser, je dirais, ok, c'est cher, mais on en a pour son argent. Le seul problème, c'est que c'est très cher et on n'en a pas du tout pour son argent. Donc, il va falloir simplifier, réformer. Et j'ai peur que, et je suis assez d'accord avec vous, quand on fait dans l'urgence, généralement, c'est pas terrible. Mmh. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de l'histoire et qu'il va falloir changer beaucoup de choses très vite. Et j'espère qu'on va pas faire des grosses bêtises.
Réaction juste de Boris qui me dit « Ce qui est vrai par contre, Xavier, c'est que ceux qui payent des impôts en France sont moins nombreux qu'ailleurs et ce n'est pas de la justice sociale. » Pas complètement faux non plus.
Alors si, c'est malheureusement faux parce que... ce à quoi votre auditeur...
Oui, la TVA, tout le monde la paye, la CSG
aussi. C'est l'impôt sur le revenu. Mais oui, mais la CSG, c'est deux fois les recettes de l'impôt sur le revenu. Et c'est la même base fiscale que l'impôt sur le revenu.
Donc, on pourrait dire que les actifs, tout ce qui est cotisations qui font partie des prélèvements obligatoires...
La CSG est payée par les inactifs aussi.
Oui, la CSG, mais les prélèvements, les cotisations, c'est pas... Enfin, moi, je considère la CSG comme un impôt, plus comme une cotisation.
Les prélèvements et cotisations qui restent sont les prélèvements retraite.
Votre avis là-dessus, Patrice Geoffrand.
Depuis le début de l'émission, on parle de finances publiques sous des angles différents. Et moi, j'ai un peu de mal à déconnecter l'ensemble. En fait, j'ai une seule idée, je la tisse et j'essaie de la tisser depuis des années. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe ni de sujet ni d'ordre de grandeur. Encore une fois, le choc de 2022, c'est 700 milliards d'euros pour l'Europe entière. l'entrée en guerre et avec des tensions qui sont sans doute durables. Et ça a été un impact un peu partout en Europe. Et là, on est en train de gratter les ordres de grandeur dont il est question. Là, c'est 10 milliards qu'on recherche de ci, de là. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de continuité dans la pensée, premièrement. Deuxièmement, il nous manque, et je parle sous ton contrôle, c'est-à-dire une macroéconomie des temps chahutés. Par exemple, le milliard là, sur le soutien à la rénovation.
La prime rénov, oui.
Si finalement ça permet de gagner des sous à Bercy, pourquoi pas ? Mais j'en suis pas du tout certain. Encore une fois, si le prix du gaz remonte, si le prix de l'électricité continue à monter, s'il y a à nouveau un choc, à ce moment-là, il va falloir remettre des boucliers. Je suis pas du tout certain que le milliard en question soit vraiment un milliard qui réduise la tension sur les finances publiques. Et donc, si on n'a pas de continuité dans ce domaine, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Et là, on va s'empailler sur les quelques milliards dont il est question là, qui de fait sont à peu près dans l'épaisseur du trait, mais qui peuvent avoir des effets absolument considérables, parce qu'évidemment, on est dans une société qui est sous tension. Et donc, si on n'a pas le recul sur l'analyse, encore une fois, de ce qui nous a été préjudiciable en termes de dette publique au cours des 10 dernières années, à ce moment-là, on perd le fil du récit. Et on ne sait pas quoi faire.
J'entends dans ce que vous dites que, comme on n'aura pas le temps d'évoquer tous les sujets, vous avez vu, pourtant, je fais des efforts. J'évite de donner trop de sujets en intro pour ne pas me retrouver avec une liste de 25 trucs que j'ai annoncés et qu'on n'a pas traités. Non, là, j'ai des progrès à faire par rapport aux autres, là, c'est vrai. Mais j'entends que vous ne croyez pas à l'idée qu'on serait sur une baisse durable et définitive des prix de l'énergie. Parce que moi, quand j'ai vu ce que l'AIE a dit, ce que GRT Gaz ont raconté, je me dis, mais c'est plus le même monde. Et la demande baisse, et on va probablement avoir un contre-choc énergétique. J'ai l'impression que j'ai pas forcément...
Oui, il ne faut pas gâcher une bonne crise. Enfin, ce qui s'est passé avec Vladimir doit nous édifier. Donc là, on est en train de passer d'une dépendance à l'égard de la Russie, à une dépendance à l'égard des États-Unis. La Biden a mis des moratoires sur des capacités d'exportation de GNL. Les Républicains hurlent à l'encontre de ça, mais si Trump arrive au pouvoir, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il fera du gaz une arme de pression sur l'Europe.
Oui, mais j'ai vu par exemple qu'on est en capacité de sortir 12 TWh de biogaz désormais.
Oui, alors on est dans...
Ce sont deux réacteurs nucléaires.
Alors, c'est tout à fait remarquable. Il faudrait faire x10 très rapidement.
Oui, au moins, oui.
Et si on parvenait d'ailleurs à faire x10, à ce moment-là, on serait plutôt à x15, on produirait en France chez nous, avec notamment des déchets du monde agricole, à peu près l'équivalent de ce qu'on importait de Russie auparavant. Donc ça, c'est un vrai projet de politique publique. Je ne suis pas certain qu'on ait les soutiens dans ce domaine qui soient à la hauteur de l'enjeu.
Vous voulez réagir, Xavier Tabot ? Je ne sais pas sur quoi exactement.
Juste sur ma prime rénov, oui. Le milliard économisé, c'est assez édifiant. Il n'est pas économisé pour des raisons budgétaires. Il est économisé parce que
par ailleurs, oui.
La procédure est trop compliquée et qu'il n'y a plus personne qui se présente pour faire ma prime. Voilà.
Il est économisé parce qu'il ne sera pas consommé.
Mais oui. Mais
et parce qu'il n'y a pas non plus assez de réparateurs RGE.
Là, c'est invraisemblable. L'économie qu'on fait, elle n'est même pas délibérée.
Ouais, non.
Elle est par incompétence et par trop de complexité, par
des dispositifs. Il y a trois choses. Il y a le manque de rénovateurs RGE. Il y a la complexité que vous décrivez qui fait que c'est décourageant. Et puis il y a aussi le nouveau schéma de MaPrimeRénov 2024 où elle est vraiment intéressante et rehaussée pour les rénovations globales, mais avec des restes à charge qui, même s'il y a une prime rehaussée, restent trop importants pour beaucoup de ménages. On a une 50. Bon, allez-y, Laurent. Ben, dites ce que vous voulez, parce que je ne peux pas vous lancer sur autre chose, parce que ce n'est pas la peine.
Ça, au moins, c'est simple.
Oui.
Je voudrais vraiment insister sur l'aspect géopolitique, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose de très, très préoccupant. On voit que les choses s'accélèrent. C'est le retour de la guerre en Europe. Et si vous voulez, si je suis un petit peu impertinent, je vais dire que depuis 50 ans, j'ai l'impression qu'on a été frappé d'angélisme. On pense qu'on était dans un club de gentlemen et qu'on allait juste, on a laissé échanger les marchandises, on allait se parler de l'avenir du monde, etc. Et que les guerres, les affrontements du passé, je veux dire, ça appartenait aux reliques. Mais absolument pas. Et si vous voulez, oui, les États-Unis, que je pense bien connaître, oui, c'est un allié, mais c'est avant tout un pays qui gère ses propres intérêts. Et je pense, puisqu'on parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui, c'est un petit peu à toutes les sauces, c'est un petit peu le mot chapeau.
On le met partout.
Il y a clairement des sujets où, je dirais, notre État doit, si vous voulez, se préoccuper pour qu'on ne soit pas des vassaux des autres. Et l'énergie en fait partie. Et là, dans la transition énergétique, je trouve qu'il y a une opportunité extraordinaire, il y a un rendez-vous avec l'histoire, de repenser les choses pour éviter ce qu'on vient de vivre depuis 50 ans, où en clair, nous avons été les esclaves des pays producteurs d'hydrocarbures. Donc, il faudrait faire un truc vraiment intelligent.
On avait une chance extraordinaire avec le nucléaire. Je rappelle aussi que nous avons nous-mêmes auto-torpillé nos capacités nucléaires pendant des décennies, où on a sacrifié à l'autel politique, je veux dire, le nucléaire. Donc là, il est fondamental qu'on devienne relativement indépendant énergétiquement, parce que nous ne sommes pas entourés de gentlemen et de gens bienveillants qui veulent simplement, je dirais, la paix dans le monde et notre prospérité. Il faut essayer de... C'est la fin de l'angélisme.
On aime votre émission car vous avez des personnes intelligentes qui ont le temps de parler. Voilà. Ben voilà. Et donc c'est pas grave si vous avez pas traité tous les sujets. C'est vrai que c'est pas grave.
C'est gentil.
Non, parce que je pense que...
Et on reviendra. On revient demain. On va finir la liste.
Oui, bah, la liste, c'était le Qatar. Le Qatar plus les 10 autres que j'avais mis dans ma petite liste du matin.
Le Qatar, il y avait quand même un truc intéressant. Hein.
Bah oui, c'est dommage.
Oui. Bah, je me suis écharpé avec Jean-Marc Daniel là-dessus hier. Bon, allez, on arrête parce que là, c'est pas possible. C'était donc Patrice Geoffroy pour le Cercle des économistes. Xavier Timbaud, vous revenez. J'ai une date, Xavier. On se revoit au mois d'avril. Ouais, c'est tard. Hein. Et puis Laurent Vronsky, on se revoit avant, je crois. Bon, allez, à demain, 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.